franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les Dogons, le peuple mythique du Mali au musée du Quai Branly à l'occasion de cette exposition, avril-juillet 2011, Jacques Chirac, qui l'a visité parmi les premiers, se serait exclamé « Mais il y a là la moitié des pièces Dogons qui comptent dans le monde ». C'est que les objets Dogons, fabriqués par des forgerons qui maîtrisaient le bois aussi bien que le métal, c'est que la mythologie Dogon, découverte et réagencée par les ethnologues, sont de haute réputation. L'ancien chef de l'État, toujours.
Jacques Chirac, le passionné d'art premier, découvre les Dogons du Mali. C'est un privilège rare, un cadeau d'une exceptionnelle valeur fait par le président malien à celui que l'on considère ici comme l'avocat de l'Afrique, le défenseur du Sud face au Nord. Après 40 minutes de vol au-dessus d'un désert de rocailles rouges, l'hélicoptère du chef de l'État s'est posé au pied d'une falaise de 200 km de long. C'est là, dans des maisons en banco, un mélange de pierre et de paille, que vivent les Dogons, une des ethnies africaines les plus connues dans le monde. Détenteurs de forces occultes, les Dogons sont très respectés en Afrique. Ce sont eux qui ont intronisé Jacques Chirac, devenu un sage Dogon, par ses paroles rituelles. Jacques Chirac, le nouveau sage Dogon, est reparti avec tout le matériel nécessaire à sa nouvelle charge, la canne en bois sculpté, la tunique bleue et un plat. Des objets rituels qui rejoindront peut-être le musée des arts premiers en janvier 2006.
Dominique André, France Inter, 26 octobre 2003. Le reportage date d'il y a 8 ans. Le musée des arts premiers s'est ouvert, en effet, mais il s'appelle maintenant le musée du Quai Branly. Et Jacques Chirac est vraiment devenu un sage, un ogon, comme on dit chez les Dogons, qui vit respecté et retiré. C'est le rôle aussi que tient la commissaire Hélène Leloup de cette étonnante exposition du Quai Branly, dont une des autres organisatrices, notre invitée aujourd'hui, la directrice des expositions du musée, Hélène Fulgence. Bonjour.
Bonjour. Oui, en effet, scène mémorable de l'hélicoptère à la porte ouverte qui survole la falaise, relatée par Catherine Clément dans ses mémoires. Elle est assise à côté du président Chirac. Ils vont effectivement atterrir au pied de la falaise et être accueillis par le défilé des masques. Cette falaise, en fait, c'est un des aspects, je dirais, constitutifs de l'exposition, puisque l'exposition se déroule dans toute sa première partie sur cette fameuse falaise, et c'est une originalité géographique clé en Afrique de l'Ouest.
On est au Mali, on a entendu ça dans le reportage, et la falaise marque la fin d'un grand plateau de grès.
Voilà, c'est effectivement, comme on dit, une falaise gréseuse qui date du pré-cambrien, n'est-ce pas, 500 millions d'années. Et en fait, cette falaise, elle a la particularité d'être toujours à l'écart des routes qui vont être les routes commerciales en son nord, les routes du Niger et les pays du sud également, ce qui fait que pendant des siècles, elle est habitée, mais elle se tient à l'écart du monde, si je puis dire.
Mais d'importantes migrations ont lieu dans le long du Niger. On est dans la boucle du Niger, hein, Tombouctou en aval, Bamako en amont. Et des migrations qui amènent peu à peu la constitution de structures politiques, voire d'empires de plus ou moins longue durée.
Bien sûr, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, tous deux empires islamisés. Mais néanmoins, si vous voulez, cette falaise se tient à l'écart. Elle va être progressivement plutôt traitée comme une sorte de refuge. Alors, je voudrais juste faire une nuance. La falaise, c'est bien sûr un plateau. C'est une falaise qui fait 400 mètres de haut et c'est une plaine, la fameuse plaine qui s'étend au sud, qui est la plaine du Sénot. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a en permanence un triptyque avec une plaine qui est plus fertile, une falaise qui est en tant que telle habitée, avec des habitats à l'intérieur de la falaise, et un plateau qui est ce fameux refuge et sur lequel se déploient au fil des ans différents groupes ethniques. À partir de 1500, on les appellera les Dogons.
Deux noms d'agglomération à retenir, Sanga, on l'a entendu dans le reportage, avec Jacques Chirac, Sanga et
Banyahara. C'est un mot dogon. Et que veut dire Banyahara? La grande écuelle. Ou si tu veux, l'auge. Pourquoi? Parce que c'est une plaine encaissée où venaient fourrager des éléphants. Et quand Tidjani Amadou a fondé sa capitale, les Toucouleurs ont corrompu l'appellation Banyahara. Ils ont appelé la ville Banyagara. Banyagara. Ça veut dire étymologiquement, avec une permutation des lettres, même si tu n'aimes pas, tu y viendras.
Même si tu n'aimes pas, tu y viendras. La radio est allée beaucoup en Pays d'Ogon. France Culture, 14 décembre 93, Nuit Magnétique, production de Bernard Troton.
Oui, alors cette falaise, même si tu ne l'aimes pas, tu y viendras. Eh bien, effectivement, ils y viennent. À partir du XIIe siècle, les Télèmes vont s'installer et puis les Dogons vont arriver au XVIe siècle. Et donc, en fait, une des particularités, c'est l'exploitation en permanence de la fragilité et des menaces de ce territoire, de ses forces et de ses faiblesses, la très grande sécheresse, le côté très minéral, le fait qu'on ne peut pas y accéder, on ne peut pas y transporter, d'où le fait que tout l'habitat Dogon est systématiquement construit avec les matériaux que l'on trouve sur place et qu'il est construit de manière variable, parfois aussi en utilisant les ressources naturelles, les anfractuosités de la falaise, les rochers. Donc les techniques d'habitat sont incontestablement toujours locales.
Alors l'architecture utilise la moindre anfractuosité, elle ne pose pas les maisons sur la terre arable. La terre, il faut l'économiser par une agriculture méticuleuse.
Que oui, une agriculture méticuleuse. Les Dogons sont de grands agriculteurs et ils ne le sont pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une chose que les colons français leur ont appris, bien au contraire. Ils cultivent depuis toujours le sorgho et le mil. Et ils cultivent aussi l'oignon. Ils sont de grands cultivateurs d'oignons. Et en particulier, ils ont une très jolie manière d'organiser leur plantation d'oignons en carré de 8. On viendra peut-être tout à l'heure à parler de la cosmogonie Dogon et des 8 ans. Eh bien, les oignons sont organisés par bandes de 8 et carrés de 8 avec des petits murs entre chaque plantation. Et donc, le pays d'Ogon réserve de ces espaces de verdure qui en font un espace magnifique.
Alors, vous parlez de la colonisation française, fin 19e, et puis très vite, une première expédition ethnologique. C'était avec Louis Desplagne à partir de 1905. 1907. Passons sur les Allemands. Il y en a eu aussi qui
ont
exploré le pays Dogon. Et continuons avec les moissons des ethnologues français.
Jeu d'enfant Dogon, enregistrement sur cylindre, effectué en 1931 dans la mission Dakar Djibouti de Marcel Griaule.
Ah, la mission fameuse de 1931, avec une équipe étonnante, Hélène Fulgence.
Une équipe étonnante, donc la mission est conduite par Marcel Griaule. Il ne faut pas oublier qu'elle est lancée et financée par l'État français, que Paul Rivet et Georges-Henri Rivière, les patrons du musée d'ethnographie du Trocadéro, lui assignent bien sûr d'être une mission ethnographique, de faire l'ethnographie du plateau de Bandiagara et des Dogons, de faire des recherches sur les Dogons et également de rapporter des objets.
Alors ici, c'est un enregistrement sur cylindre, 1931, de cette époque-là. Les objets, ils sont destinés au musée du Trocadéro, le futur musée de l'homme.
Les objets sont destinés au musée du Trocadéro et les méthodes de l'époque sont assez exceptionnelles puisque Griaule est entouré de toute une équipe, non seulement d'ethnographes comme lui qui va en particulier s'intéresser au mythe et à la cosmogonie, mais également d'un grand secrétaire, Léris, également d'ethnomusicologues, de naturalistes et de linguistes.
Et plus tard dans les expéditions qui suivront, parce qu'il y en aura d'autres, des femmes importantes.
Oui, Germaine Diterlin, et puis la fille de Griaule, qui est une éminente linguiste, qui a étudié la parole et les contes d'Ogon, Geneviève Calame-Griaule.
Alors, Griaule va tellement s'identifier, va tellement identifier son destin à celui des Dogons, que quand il disparaîtra plus tard, en 1956, les Dogons le figureront ainsi à ses funérailles.
Les Dogons ont fait un mannequin de Griaule, et ils l'ont habillé avec les habits même de Griaule, qui était resté dans une cantine gardée par un Dogon, ami de Griaule. Le mannequin était fait de paille de mil, ficelé et cousu dans du sac, et on a revêtu ce mannequin de sac, de son. On l'a revêtu des habits même de Griaule. On lui a mis ses bottes. Griaule avait de grandes bottes en daim, son pantalon, une vareuse, son casque, et des gants également que Griaule avait laissés dans sa cantine. On a monté le mannequin sur la terrasse du campement et on l'a assis devant une table, la table même de Griaule, la table de travail de Griaule, dans cette attitude familière de l'ethnographe prenant des notes sur la terrasse.
Témoignage de François Didiot à la Radio Nationale, 1957. Nous sommes donc après la mort de Griaule en 56. Mais si on revient à ses expéditions, à son travail d'avant-guerre, à la rédaction aussi, après-guerre, du grand livre...
Oui. Après la guerre en 46, Griaule repart avec Germaine Diterlin et Solange de Ganay et puis sa fille pour 3 mois et demi. Et là, on vient le chercher au motif de lui vendre une amulette. Et puis, il se trouve face à un ancien du village, Hugo Temeli. Et c'est ce Hugo Temeli, il va retourner le voir en 33 jours, 33 entretiens. Et il va lui révéler la cosmogonie d'Ogon, l'existence du dieu Ama, père de tous les hommes et de tous les dieux, et puis de ses deux fils. Tous deux gémellaires, deux sortes de poissons et du placenta qui les abrite, qui est la femme du dieu, la terre. Et un des deux fils va naître non pas sous sa forme gémellaire, mais va se séparer et va naître seul.
Mais ce que Griaule attendait, c'était la représentation d'une grande mythologie subtile, avec toute une gamme de correspondances, même s'il négligeait l'islamisation qui avait commencé du pays de Dogon. Il pensait que l'histoire est d'abord religieuse. C'est ça qui l'intéressait.
Oui, Griaule pensait que l'histoire était d'abord religieuse et incontestablement, c'était aussi une époque, Durkheim, Marcel Mauss, l'époque de la recherche du mythe et de la constitution de l'histoire par le mythe. C'est ce qu'il a trouvé chez les Dogons.
N'est pas Phidias qui veut face aux Dogons. C'est une phrase en exergue du catalogue de l'exposition Dogon dont vous êtes une des animatrices, Hélène Fulgence, au musée du quai Branly. On dit que l'animisme, c'est le simplisme. Ben, c'est pas ça du tout, pense Griaule.
Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, Griaule va décrire de manière infinie, à travers Jeux Dogon et Masques Dogon qu'il va publier, et puis à travers, bien sûr, Dieu Do, toutes les équivalences symboliques de la pensée Dogon. Ça a été souvent réduit après lui, notamment par des écoles anthropologiques européennes, anglaises notamment, plus ancrées sur la parenté, la société, l'influence du colonialisme, tout ça ayant incontesté existé. Mais je crois que Griaule, déjà à la manière d'un Lévi-Strauss, pensait que cette grille était, cet ensemble cosmogonique était une grille d'interprétation du monde, flexible elle-même.
Et pas Phidias qui veut face au Dogon, c'est-à-dire que l'architecture Dogon a son équivalent dans l'architecture grecque, on pourrait presque parler comme ça, et puis que la mythologie grecque n'est pas nécessairement plus riche que la mythologie Dogon.
Au premier temps du monde, les hommes étaient immortels. Mais Dieu, en leur donnant la parole, leur vendit la mort. Et le renard, le maître du désordre, en inventant le premier masque pour le dama de Dieu, révéla aux hommes de merveilleux rites funéraires. Alors, la mort devint contagieuse. Depuis, les hommes suivent le même destin tragique. D'abord, le cadavre impur est enfoui dans une caverne cimetière. 6 mois plus tard, les funérailles confient au génie de l'eau l'âme errante. Mais elle revient toujours rôder autour de sa maison. Bientôt, le village est encombré par les âmes des morts qui ont une telle séduction qu'elles entraînent avec elles les âmes des vivants. Tous les 4 ou 5 ans, le dama, la chose dangereuse, met fin à cette maraude. Alors, séduites par le grand jeu des masques, les âmes défuntes quittent le village. Et, suivant le trajet du premier ancêtre mort, rejoignent le pays des morts, là-bas, à Manga.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Hélène Fulgence, directrice des expositions au musée du Quai Branly, à l'occasion de la grande exposition sur les Dogons. Ce qu'on a entendu, qu'on peut entendre d'ailleurs dans les murs du musée du Quai Branly, c'est un extrait d'un film de Jean Rouch. Alors Jean Rouch fait partie de la génération qui prend la relève de celle de Griaule. Il n'est pas seulement armé d'un carnet de notes, mais aussi d'une caméra.
Et plusieurs même.
ensuite l'entrée des masques à Sanga. Sanga, l'une des agglomérations importantes de la falaise Dogon. Là, il faut que vous nous expliquiez.
Oui, alors d'abord, ces masques, concrètement, ils sont dans l'exposition parce que c'est une des parties très importantes de la collecte rapportée par l'expédition Griaule. Effectivement, très tôt, Griaule, Léris et ses compagnons vont assister à un dama, une levée de deuil, qui est effectivement, qui équivaut à un défilé de masques extrêmement impressionnant. Et ils mettront des années à comprendre l'entièreté des symboliques des différents masques. Ces masques sont fabriqués par ceux qui les portent, sont fabriqués d'abord par les forgerons, mais aussi par ceux qui les portent et qui apprennent à les fabriquer. Et encore une fois, avant toute cérémonie funéraire dans l'univers Dogon, les hommes, seuls les hommes circoncis peuvent y participer, chose très importante, à une exception près, la sœur des masques, la Yassigine, Germaine Dieterlin ayant été intronisée Yassigine, donc qui est une femme en fait qui porte un masque surmonté d'un corps de femme, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Tous les autres masques, quelles que soient les choses qui figurent, sont portés par des hommes. Ces masques représentent très souvent des animaux et au départ sont des masques de chasseurs qui veulent s'emparer de ce qu'on appelle le nyama ou l'énergie vitale de l'animal pour la dominer d'une certaine manière et pouvoir avoir le dessus sur l'animal. Mais le dama comprend aussi des personnages très importants, en particulier un des symboles du monde Dogon, qui est le masque Kanaga, qui porte une sorte de croix vers le sol et vers le ciel à la fois, et dont on voit très bien dans la manière dont Griaule en parle, la polysémie des interprétations.
Alors cette société de masques...
Lawa.
C'est elle qui porte la responsabilité de la transmission. Les anciens, ils rappellent aux hommes jeunes les fondements de leur culture. Les jeunes, ils reçoivent le savoir et en dépôt une langue secrète.
Le sigisso, en particulier donc la grande cérémonie du sigi qui a lieu tous les 60 ans, doit être effectivement l'objet de l'apprentissage d'une langue secrète.
Alors expliquez-nous comment se tisse la parole. La parole a un rapport avec la mort, et ce qui figure le mieux, la parole, langue secrète ou pas, c'est le tissu.
Oui, alors ça vient de la cosmogonie initiale, puisqu'en fait, Ama donne aux hommes non seulement les fameux 8 ancêtres, mais également la parole. Et la parole, pour les Dogons, c'est vraiment le verbe créateur, même si ça a des échos étrangement monothéistes quand on l'entend de cette façon. Cette parole, elle est donnée aux hommes, elle est symbole de fertilité. Et notamment l'échange de la parole dans la société, à la fois entre membres d'une même génération, de manière intergénérationnelle et à l'intérieur du couple, est un garant de la fertilité. Et la parole est associée au tissage, car elle sort à travers les dents, dans la cosmogonie, encore une fois, comme à travers le métier à tisser.
Je répète ma question, expliquez-nous, mais cette question est vaine, parce qu'il faut entrer très profondément dans l'obscurité pour comprendre, et dans le détail pour trouver ce qui est important. À preuve, l'expérience qu'a vécue dans les années 1960, le cinéaste Jean Rouche, son maître Griaule, avait vécu indirectement la grande cérémonie du Sigi, il n'y avait pas participé. Jean Rouche, lui, si.
Nous avons eu la chance de filmer les cérémonies du Sigi qui n'ont lieu que tous les 60 ans et qui commémorent l'invention de la parole et, comme conséquence, l'invention de la mort. Et nous avons eu la chance avec Germaine, pendant 7 années, de suivre ce rituel et de découvrir année après année, en faisant du film, que contrairement à ce que pensait Griaule, car il ne pouvait pas le savoir, il s'agissait d'un mythe itinérant à 7 chapitres chaque année, et qu'aucun de ces sigis n'était les mêmes, mais racontait une histoire fantastique, 3 rituels de la mort et 4 rituels de la vie. Qui ont lieu tous les 60 ans.
Témoignage de Jean Rouche et de l'expérience vécue avec Germaine dont on a déjà parlé.
Dieterlin, oui.
France Culture, une émission d'Antonin Potoski, 4 janvier 2005.
Oui, Jean Rouche, avec ses techniques de cinéma moderne, va aussi révolutionner l'anthropologie à sa manière, puisqu'il va placer dans différents villages et à différents endroits du village plusieurs caméras, et donc obtenir une vision finalement que les Dogons eux-mêmes n'avaient pas du fameux Sigi, qui se déroule sur plusieurs villages et sur plusieurs années, et qui a lieu tous les 60 ans, le dernier en 69, logiquement le prochain aux alentours de 2027.
Bon, il est bon que vous expliquiez, Hélène Sulgens, qu'il faut plusieurs points de vue pour comprendre les Dogons.
Dogon blues. Mande po amenjele, mande po amenjele, baulu amenjele, yela duye di aveno.
Dogon Blues par Soribamba. Oui, il faudrait peut-être entendre un point de vue plus moderne, allais-je dire. Questionner, Hélène Fulgence, la dogonologie traditionnelle que vous êtes censée représenter ici. Oui, parce que la société Dogon, on est tenté de penser quand même qu'elle a été un peu constituée par les ethnologues qui ont réagencé sa spiritualité à tel point que les Dogons ont peut-être intériorisé ce que Griot l'a écrit, qu'il régurgite maintenant.
Oui, ça a été souvent dit, et notamment au plan touristique, que les Dogons finalement redonnaient aux visiteurs qui ont afflué à partir des années 50-60 sur la falaise de Bandiagara le mythe du dieu d'eau en particulier. Tout système ethnologique ou anthropologique a tendance de toute façon à mettre le monde en système et donc à le reconstruire, à l'interpréter. C'est aussi une certaine époque de l'anthropologie. Il y a eu encore une fois d'autres anthropologies des Dogons, notamment une anthropologie hollandaise et une anthropologie anglaise, qui se sont attachées notamment à travers la langue, et aussi actuellement des anthropologues français comme Éric Joly, qui en travaillant sur la langue, en particulier dans les campagnes, puisqu'aujourd'hui toutes les villes Dogons, il faut le rappeler, sont largement islamisé. Donc on travaillait à chercher d'autres aspects de cette culture, d'autres facettes.
Alors les villes Dogon sont largement islamisées, dites-vous alors.
Oui, là aussi. Les villes Dogon sont largement islamisées à tel point que on vient des villes dans les campagnes pour assister aujourd'hui à ce fameux dama.
Oui, aux cérémonies organisées en spectacle.
Dont on parlait tout à l'heure.
Oui, mais permettez une interrogation de plus. Alors, l'islamisation qui avait commencé dès avant l'époque de Griol, elle est avancée maintenant. Et il me semble que l'islam ne permet pas trop la multiplication des fétiches. Alors, comment se combine le maintien de la création de fétiches? On veut les vendre, ils sont fabriqués pour être vendus, avec la tradition.
On peut dire quand même qu'il y a un seuil qui est les années 70, ce moment où Jean Rouch filme le Dama, le Sigi. Il y a quand même incontestablement jusqu'aux années 70 une véritable résistance de la religion animiste face à l'islam, y compris de manière secrète, de manière filiale, familiale. Et puis ensuite, je pense qu'il y a vraiment un moment où l'islamisation incontestablement prend le dessus. Et donc, on peut se poser la question aujourd'hui, effectivement, d'une patrimonialisation culturelle. Le fait, notamment à travers les cérémonies de masques, l'association culturelle du plateau de Bandiagara, qui depuis 2000 organise un festival de masques. Alors, est-ce que c'est patrimonialisation, tourisme? Mais ce qu'il faut en même temps dire, que raconte très bien Anne Doquet dans son livre sur les Dogons, c'est que les visiteurs de ces festivals de masques sont aussi des Dogons. Qui viennent des villes, qui viennent de la plaine du Sénot, qui remontent sur la falaise. Et donc, quel est leur lien intime avec cette cérémonie? Il est en tout cas pas touristique.
Les Dogons sont 500 000 maintenant. Il faut bien qu'ils vivent. Alors, ils organisent des musées pour le plaisir des touristes. Ils fabriquent des objets pour qu'ils soient vendus. Vous en exposez, de ces objets extrêmement inventifs.
Oui,
qui mériterait d'être dans les vitrines du Quai Branly, vous les exposez dans
bien
votre
sûr,
manifestation.
L'exposition présente 350 objets.
Oui, mais des nouveaux, des...
Alors, les plus récents sont des années 50-60, donc ce sont des masques. La plupart des autres objets de l'exposition sont au contraire très anciens. C'est 1000 ans d'histoire d'Ogon, ça. On
mais
remonte au
10e siècle. Mais vous contournez un certain nombre de questions que pose très bien Je le recommande aussi à nos auditeurs, le télérama hors série qui nous dit comment, ouais, à partir d'une simple paire de tongs, on peut faire un objet de grande valeur.
Oui, et il y a aussi une récupération importante, formelle, dès les années 30 avec Présence africaine, du signe du Kanaga, par exemple, de symboles dogon, qui sont intégrés à la création contemporaine avec brio.
Excusez ces questions qui font désordre, mais dans la mythologie des dogons, le désordre, ça existe, de même que le serpent vous souffle sa sagesse, madame la directrice des expositions, la nuit. Le renard guide les journalistes qui sèment le désordre.
J'ai assisté un jour à une réunion de prêtres du renard qui, sur des tables de sable, préparaient la divination. Ce sont des tables rectangulaires sur lesquelles on pose des questions sous forme de hiéroglyphes de dessin. Les prêtres mettent des graines de mil et de cacahuètes sur ces tables. Dans la nuit, le renard vient manger ses graines et le lendemain matin, les traces de pas qu'il a laissées sur les tables sont interprétées par les prêtres. La divination par le renard est une chose troublante. C'est très rigoureux parce que les questions sont posées plusieurs fois et il faut vraiment que les traces de pas se présentent de la même façon pour que la réponse soit exacte.
François Didiot, 1957, la Radio Nationale. Oui, les questions sont répétées plusieurs fois. Le désordre.
Le désordre, oui, le renard
pâle. Le désordre, il est dans l'homme.
Le désordre, il est à la source, là, dans la cosmogonie dogon, puisque c'est le premier des deux jumeaux, celui qui sort seul et de manière non gémellaire, qui sème le désordre. Le désordre, c'est d'ailleurs un sujet auquel s'intéressent non seulement les dogons, mais plus largement pratiquement toutes les cultures du monde, le dionysiaque, le désordre. Et Jean Rouch emploie cette très belle expression à propos des dogons, les maîtres du désordre. Cette expression sera reprise dans un an au musée du Quai Branly, puisqu'on prépare une exposition avec Jean de Loisy et Bertrand Hell, qui s'appelle « Les maîtres du désordre » et qui traitera précisément de cette affaire en montrant comment elle est à la clé et à la source de pratiquement toutes les cultures du monde.
Mais ce peuple sanctuaire, il est pris dans les tourbillons du désordre. Vous recommanderiez d'aller faire du tourisme au pays dogon?
Alors, je ne suis pas le Quai d'Orsay, donc je ne suis apte à rien recommander du tout. Mais je crois que le plateau de Bandiagara actuellement est évidemment visitable, il faut le dire. On me l'a dit encore récemment, parce qu'autour de l'exposition, les questions se sont posées. Est-ce que ce plateau va une fois de plus être cet endroit de refuge? En tout cas, on ne peut que recommander de ne pas ignorer cet espace particulier.
Oui, parce que l'influence de Al-Qaïda Maghreb s'étend et la zone peut présenter un certain nombre de dangers. Mais la mort, d'ailleurs, vue chez les dogons.
La mort, elle est intégrée à la société. Les morts sont exposés, enveloppés dans cette fameuse couverture à huit bandes, celle des huit ancêtres. Et elle est encore, me semble-t-il, très intégrée à la vie par toutes les cérémonies que nous avons évoquées et qui ont toujours cours.
Une cérémonie de funérailles dure très longtemps.
Oui.
Une émission dure très vite.
Oui.
Justement, parlez-nous de cette perception du temps particulière.
Les dogons ont une perception du temps qui, incontestablement, est très différente de la nôtre, mais aussi, d'une certaine manière, à cause de la particularité de cette falaise, de leur climat, de leur vie, du cycle aussi de la vie et de la mort qui est répété de manière familiale. Donc, incontestablement, ils ne vivent pas dans notre temps parisien.
Donc, une fois qu'on a visité l'exposition Dogon, lu le numéro de Télérama hors série, il y a aussi un numéro de Connaissance des Arts, il y a un petit livre de la collection Découverte chez Aurélien Gabory, puis un énorme catalogue édité par Vos Soins et piloté par Hélène Leloup. On a peut-être envie de devenir un sage qui se retire, le Ogon qui part avec son plat, sa canne, sa tunique, qui ne se lave pas.
Qui ne sort pas, sinon portée par des jeunes femmes.
Oui, et c'est le serpent qui, la nuit, lui donne la sagesse. L'équipe de la Marche de l'Histoire, Franck Olivard, c'est son anniversaire, les Dogons, c'est le 15e siècle, lui c'est beaucoup plus récent. Jacques Sigal, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier, Clarisse Le Gardien, notre site pour les réabonnements au podcast et pour toute la documentation. Demain, nous parlerons de Ceausescu, un film sort de André Hue UGK consacré à la mainmise du dictateur sur la Roumanie.